Turning today to the Gospel of John, chapter 12 and verse 31.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean et au chapitre 12, au verset 31. L'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 31. Ces paroles de Christ, maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et notre sujet, c'est le dernier message public de Christ. Et nous allons considérer ce passage jusqu'à la fin de ce chapitre, si possible. Et j'aurai quatre points. Le premier point sera celui-ci, le jugement de ce monde. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Et le Seigneur, bien sûr, ne veut pas dire par là que c'est le jour du jugement qui est arrivé. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il ne voulait pas dire que le monde allait être jugé dans peu de temps. Parce que plus tard, au verset 47, il dit « Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et il explique ceci par la suite. Le jugement, c'est à la fin des temps. Et cependant, il y a ces paroles-là au verset 31. « Maintenant se fait le jugement de ce monde. » Et c'est une déclaration si profonde qui a plusieurs significations. Et c'est facile de les comprendre. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Je devrais ajouter que Jean Calvin pensait que ce terme jugement ici, dans ce verset en particulier, a été utilisé dans un sens positif. C'est concevable. Ce terme en grec classique, apparaît dans des sens positifs et négatifs. C'est une décision pour ce monde. Dans le Nouveau Testament, ce terme jugement est toujours traduit ainsi. Et en général, et ce passage est l'exception si Calvin a raison, mais ce terme jugement dans la parole de Dieu est toujours une condamnation. Un jugement contre le monde. Je pense que, sans aucun doute, ceci signifie un jugement, une condamnation dans ce terme. Mais ce que Christ veut dire ici, c'est que le jugement sera basé sur la croix du calvaire. Tout le monde mérite d'être jugé et condamné. Tout le monde devrait être séparé de la présence de Dieu pour toujours et être condamné pour toute l'éternité, à moins que leur péché soit expié à la croix du calvaire, à moins qu'ils soient libérés par la mort de Christ. Et ceci est évident, parce qu'il y a eu cette œuvre de salut dans leur cœur, ils croient en lui, ils se confient en lui, ils l'acceptent, ils dépendent de lui, ils dépendent de la croix du calvaire. Et seulement ces gens-là, seuls eux, ne seront pas jugés et condamnés. Ainsi, le jugement de ce monde ne se passera pas encore, mais ceci va déterminer le jugement de chaque individu, perdu, condamné ou sauvé et délivré. Est-ce que le Seigneur a expié pour nos péchés la croix du calvaire? Et nous le savons, si nous sommes venus à lui, alors nous sommes délivrés. Si nous nous sommes confiés en lui, alors il a expié nos péchés à la croix du calvaire. C'est l'un des sens de ce terme. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Le jugement est déterminé par la croix du calvaire. Et si nous sommes inclus ou non parmi ceux qui sont sauvés par la mort expiatoire de Christ pour les pécheurs. Il y a un autre sens ici. Dans cette déclaration de Christ, n'oubliez pas qu'il était le Fils de Dieu. Quand il parle, ces déclarations sont très profondes. Quand il parle, il y a souvent une seule signification claire. Et parfois, il y a un certain nombre de niveaux de signification. Et une autre signification de cette déclaration, c'est que le monde, c'est-à-dire, de manière générale, le monde incroyant, ceux qui vont demander son exécution, Ponce Pilate qui va être celui qui va demander sa mort, les scribes, les pharisiens qui ont influencé la foule pour son exécution, le monde en général, le monde incroyant, sera jugé pour ce qu'ils ont fait. Maintenant se fait le jugement de ce monde, cette société de ce temps-là, ce qu'elle a décidé de faire contre Christ, et ils ont été jugés pour cela. Et la nation d'Israël, de manière générale, a été jugée peu de temps après, en 70 après Jésus-Christ, avec la destruction de Jérusalem par les Romains, et le temple a été détruit également. Et Ponce Pilate est mort dans des circonstances tragiques et malheureuses. Les scribes, les pharisiens ont perdu leur position et tout leur ministère. L'ensemble des sacrificateurs, tout a été amené à une fin. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Ceci inclut le jugement des ennemis de Christ et ceux par qui il a été exécuté. Mais pour nous, la chose la plus précieuse, c'est sa mort expiatoire qui délivre les hommes et les femmes du jugement. Il y a d'autres aspects également dans ce verset, mais je veux mentionner uniquement ces deux-là. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, le prince de la puissance de l'air, sera jeté dehors. Jeté dehors de quoi? Parce qu'il sera encore en vie et actif pendant au moins 2000 ans, mais il sera jeté hors de son royaume, de sa domination sur les nations non-juives en particulier. À présent, l'évangile sera répandu partout et les gens seront sauvés et délivrés de tout pays, de toute nation sous le ciel. Et Satan va perdre tant de sa puissance. Il va être jeté dehors et par la croix du calvaire, grâce à la croix du calvaire, il sera lié et jugé quand Christ va revenir avec tous ses anges. Maintenant, c'est l'événement qui détermine tout le jugement des jours derniers. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et en passant, la croix du calvaire même a mis fin à l'influence de Satan qui occupait les hommes et les femmes contre leur volonté. Avant la croix du calvaire, il y avait des gens qui étaient possédés de démons. Et c'était plutôt fréquent à l'époque. Et il semblait qu'il y avait une grande augmentation du nombre de personnes dans cette période avant la venue de Christ, la possession par les démons. Mais après la croix du calvaire, ceci a pris fin. Satan n'a plus cette puissance de posséder une personne contre sa volonté. Mais il y a des exceptions. Si les gens sont impliqués dans des activités occultes et qu'ils invitent le diable et les démons dans leur vie par leur propre volonté, alors ceci est différent. Mais il n'y a plus de possession contre la volonté des gens. Même des enfants étaient possédés à l'époque, des démons impurs. Et Christ a chassé les démons. Ceci faisait partie de sa grande œuvre qui a culminé à la croix du calvaire. Les charismatiques de nos jours s'attendent à ce que les gens soient possédés de démons de manière involontaire et ils disent qu'ils chassent les démons. Mais ceci est faux de manière doctrinale parce que Christ a chassé les démons une fois pour toutes. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, en verset 32, quand j'aurai été élevé de la terre, et il parle ici de sa crucifixion qui allait se passer quelques jours plus tard, j'attirerai tous les hommes à moi. Non pas littéralement tous les hommes. Nous comprenons facilement que ce n'est pas ce qu'il veut dire parce qu'il continue en parlant de jugement et les gens sont condamnés. Ainsi, il ne veut pas dire ici littéralement tous les hommes, mais des hommes de toute nation, de tout pays, toutes sortes de personnes, de toute nationalité, de tout arrière-plan, de tout endroit. Et les hommes, les femmes, les enfants, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce terme « attirerai » est un terme extraordinaire et beau. La croix, d'une certaine manière, quelque chose de terrible. Christ, le Sauveur, est mort dans une agonie terrible pour porter la condamnation de nos péchés. Et cependant, c'est quelque chose de merveilleux parce que la croix attire, et c'est ainsi que nous venons à Christ, nous sommes attirés par la croix de Christ. Quand vous avez été converti, vous avez été convaincu de péché de manière négative, mais quelque chose ensuite s'est passé qui était bizarre, étrange et positif. Vous avez été touché, vous avez été attiré, et le Seigneur a œuvré profondément en vous. Et vous avez réalisé que Christ, le Fils de Dieu, est mort, qu'il a souffert, qu'il est mort pour vous. Et ceci vous a touché tellement que ceci vous attire à lui. Et c'est exactement ce qu'il a dit ici qu'il ferait. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je me souviens, il y a bien des années, j'ai entendu un homme qui était dans l'erreur, mais qui pensait bien faire. Il disait, pour ramener les gens à Christ, vous avez besoin de quelque chose pour les attirer. Oui, la croix du calvaire. Mais il disait, non, ce dont vous avez besoin, c'est pas un prédicateur qui prêche dans une église. Ce dont vous avez besoin, c'est une réunion confortable dans une maison, un petit groupe de maison. Et vous pouvez avoir ce temps amical, et ceci va amener les gens à Christ. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai en cela, mais il a oublié la chose principale, c'est que ce qui attire les gens à Christ, ce n'est pas l'amitié des chrétiens, mais Christ qui est mort à la croix du calvaire, parce que quand Christ œuvre dans le cœur, il n'a rien de plus puissant pour attirer à lui. Et c'est précisément ce qu'il a dit. Certaines personnes pensent que si vous avez toutes sortes de musiques soi-disant chrétiennes et émotionnelles, ceci va amener les gens à Christ. Non, ils sont dans l'erreur. Ce qui vous amène à Christ, c'est la croix du calvaire, c'est une œuvre spirituelle. Vous êtes convaincus et vous êtes attirés. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Le deuxième point, au verset 34, mon deuxième point est celui-ci, la question méprisante, parce que c'est une question méprisante qui est posée ici, qui n'est pas posée par les chefs des prêtres, par les scribes, par les pharisiens. Ceci est rare, mais cette question, c'est la foule qui la pose. Le peuple lui répondit. Il y avait probablement des voix qui s'élevaient du peuple et ils ont répété cette question pour avoir une réponse à leur question. Et il semble que le peuple se rassemble avec cette question. Peut-être qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes qui, à ce moment-là, écoutaient Christ parler. Le peuple lui répondit. Ainsi, c'est ce que la foule pense. Et voici la question. Nous avons appris par la loi que Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu ? Ceci est méprisant. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Chers amis, réfléchissez. Peu de temps auparavant, il y a eu cette entrée triomphale à Jérusalem. Le Seigneur est entré dans la ville. De la route de Jéricho qui passe par Béthanie, il est arrivé dans la ville de Jérusalem. Et des milliers de personnes l'ont suivi. Les gens sont entrés dans la ville pour l'entourer, pour l'accueillir. Et ils ont crié « Hosanna, Seigneur sauve-nous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ils l'ont proclamé comme étant le Messie. Cette foule a changé complètement. Qui est ce Fils de l'homme ? Soudainement, ils sont déçus. Ils sont déçus par ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit qui les a déçus tellement et qui les a fait changer d'avis ? il dit « Je vais mourir. Je vais être crucifié. » Ils savent que les autorités essaient de l'arrêter et ils sont presque sûrs que ceci ne se passera pas. Ils sont sûrs qu'il est leur Messie. Bien sûr, ils pensent à un Messie politique, non pas spirituel. Ils pensent qu'il va les délivrer de l'occupation romaine et, d'une certaine manière, qu'il va triompher contre Rome, qu'il va élever une armée et faire quelque chose de glorieux, de grand. Et cependant, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, » or il disait cela pour marquer de quelle mort elle devait mourir. Ils savaient tous que ceci signifiait la crucifixion romaine. « Je suis venu pour mourir, » dit-il. Ils disent « Quoi ? Mais comment est-ce que tu peux nous délivrer alors ? Qui est ce fils de l'homme ? Ce n'est pas ce que tu es censé faire. » Et il leur a dit de manière répétée, tant de fois, « Je suis votre Messie spirituel. Je suis venu pour amener la délivrance du péché. Je suis venu pour vous demander de vous repentir. » Mais ils n'ont pas cru en lui. Ils ont mis de côté toutes ses paroles et se sont dit, « Non, tu es notre Messie politique. » Et tout d'un coup, ils sont déçus. Et il crie cette question méprisante. Nous avons entendu que Christ doit demeurer éternellement. Où est-ce qu'ils ont entendu cela? Ils n'ont pas compris l'Ancien Testament. Ils l'interprétaient mal. Ils interprétaient l'Ancien Testament d'une manière très littérale. Le psaume 110, « Tu es un roi pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Ils se sont dit « Oui, voilà le Messie. » Quand il viendra, vivra éternellement. Comment est-ce que tu peux dire que tu vas mourir? Qui est le Fils de l'homme? Et Ésaïe dit, il n'y aura pas de fin à son royaume. Il vivra pour toujours. Mais ils n'ont pas compris que ceci était spirituel. Qu'il allait souffrir, mourir, qu'il allait ressusciter. Et ensuite, il serait en vie éternellement. Oui, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Et il est retourné dans la gloire. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours, dit l'Écriture dans Ézéchiel. Il vivra pour toujours, mais ils n'ont pas compris que ceci était spirituel. Dans Daniel, sa domination est une domination éternelle. Ainsi, ils avaient cette interprétation littérale de l'Ancien Testament. Celui qui va nous délivrer va venir, va nous débarrasser des Romains et il va rendre de notre nation la nation la plus glorieuse sur terre et il va vivre pour toujours. Mais non, je suis celui qui vous délivre spirituellement. Mais il ne voulait pas cela, il ne voulait pas le pardon des péchés. Ou la plupart d'entre eux, ils ne voulaient pas la conversion, la vie éternelle. Même si tant de fois il leur a dit ces choses. Ainsi il y a cette question méprisante. Mais c'était leur problème tout le long. À ce moment-là, ils posent leurs questions. Ils voulaient un Messie politique et ils ont décidé d'ignorer les prophètes, d'ignorer également sa propre prédication. Et nous en arrivons au verset 35 et au troisième point qui est celui-ci. Le dernier message de Christ. Jésus leur dit « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. » Encore quelques jours. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et au verset 36, et nous en arriverons dans un moment. Et peut-être vous allez demander, quand vous lisez le verset 35 et le verset 36, quelle est la réponse à la question ? Ce que Christ leur dit ne répond pas à la question. Nous avons entendu que Christ doit vivre pour l'éternité. Qui est le Fils de l'homme? Il ne semble pas leur répondre. Il leur dit quelque chose d'autre. C'est là notre première impression. Mais alors qu'il ne répond pas à leur question directement, il leur dit exactement ce qui est nécessaire, ce qu'ils doivent apprendre. La question, c'est qui est ce Fils de l'homme? Nous nous attendons à ce qu'il vive éternellement. Et la réponse est le verset 35. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. C'est comme s'il leur disait, vous avez la lumière. Je vous ai amené la compréhension. Je vous ai enseigné comment comprendre l'Ancien Testament et ces textes qui ont une signification éternelle et spirituelle. Je suis la lumière, je vous dis comment comprendre ces textes. Écoutez-moi et changez vos voix. Ainsi, alors que ce n'est pas une réponse directe, c'est un défi et c'est pour les reprendre. En leur disant d'écouter ce qui leur a été enseigné. Vous savez que je suis la lumière, je suis authentifié par les prophéties, je suis authentifié par mon enseignement, vous m'avez entendu expliquer les Écritures tant de fois et vous avez été fasciné. Vous savez que je suis la lumière, vous avez vu mon comportement, vous avez vu mes miracles, ma puissance qui m'authentifie. Vous avez entendu la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les paroles, mais beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était un ange qui parlait ou que c'était le tonnerre. Et ceci est venu du ciel sans aucun doute. Je suis la lumière. Écoutez mes explications concernant l'Ancien Testament. Ils n'ont pas écouté. Et le Seigneur les reprend par sa réponse. Écoutez mes paroles. Peut-être il leur a dit, vous êtes des êtres qui ont une pensée, qui est intelligent. Vous pouvez raisonner, vous devez écouter. Mais vous, vous êtes pris dans votre propre compréhension des choses et vous êtes déterminé à ne pas écouter et à vouloir un messie politique. Ainsi, sa réponse est entièrement appropriée, même s'il ne répond pas directement à leurs questions. Et j'aimerais en arriver au verset 44 et je vais expliquer pourquoi j'en arrive là. Verset 44, « Or Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi, etc. » Nous lisons que Christ s'est caché, qu'il donne ses dernières paroles, ou il semble que ce soit les dernières paroles au verset 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. En grec, il a été caché. D'une manière continue, il se cachait. Il semble finir là son discours au verset 36. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et au verset 36, c'est la fin de son ministère public. Il ne semble pas dire plus que cela. Mais ensuite, au verset 44, Jésus s'écria et dit, le verset 36, c'est là la fin et c'est clair. Et il se cacha d'eux. Et c'est là la fin de son ministère. Mais voyez-vous ce qui se passe au verset 44 et jusqu'au verset 50? Ce sont des choses qu'il a dites en même temps que le verset 36. Ce que l'apôtre Jean semble faire, c'est finir là le ministère de Christ, commenter sur l'incrédulité de la majorité des gens, commenter sur le fait que certaines personnes ont cru, d'autres non. Et ensuite il continue en résumant ce qu'il a dit jusqu'au verset 36. Beaucoup de gens pensent que les versets 44 à 50 sont un résumé de tout son ministère, qu'il résume tout le livre. Et la raison pour laquelle ils pensent cela, c'est que tout ce que vous lisez dans ces versets est dit déjà dans l'évangile de Jean avant ce chapitre. Mais en même temps, alors que ceci est vrai, il est plus probable que le verset 44 se rajoute au verset 36 et rajoute ce que Christ leur a dit avant ses dernières paroles. Et la raison pour laquelle je crois ceci, c'est que ces paroles rajoutent et affirment et fortifient l'argument du verset 36. Cet argument qui est résumé au verset 35 et au verset 36 est exprimé de manière plus extensive des versets 44 à 50. C'est là le message dont il parle. Ainsi, au verset 36, pendant que vous avez la lumière, et au verset 44, ceci fait partie de ce discours. Or Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Il a dit ceci plusieurs fois auparavant. Et au verset 45, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Ceci fait partie de son dernier rappel, si vous voulez. Comment il appelle les gens à lui pour le salut de leur âme. Au verset 46, « Je suis venu dans le monde. » Voyez-vous, c'est le même argument. « Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. » Vous êtes dans les ténèbres avec ces idées que vous avez, que vous devriez prendre ces prophéties de manière littérale en attendant un Messie qui, en tant qu'homme, va vivre éternellement. Non, c'est une prophétie spirituelle, une prophétie éternelle. Et je suis venu pour vous délivrer de ces ténèbres, d'interprétation insensée, littérale de la parole de Dieu. Au verset 47, « Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point. » Il mentionne le jugement. « Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et ceci est vrai encore de nos jours. Tous ceux qui rejettent Christ sont jugés par ses paroles, par son invitation. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Et ensuite, il en arrive à la conclusion, verset 49, « Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et au verset 50, « Les choses donc que je les dis comme mon Père me les a dites. » Il a continuellement parlé de la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a mentionné ceci à nouveau au chapitre 6 et au chapitre 8, au chapitre 10, au chapitre 11 et plutôt au chapitre 12. Constamment, il parle de la vie éternelle. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas écouté? Comment se fait-il qu'ils pensaient que le Messie allait être un Messie politique, un homme sur cette terre qui allait vivre pour toujours sur cette terre? Les choses donc que je les dis comme mon Père me les a dites. Et ces versets 44 jusqu'à la fin suivent ce qu'il dit au verset 35 et 36. C'est un résumé du livre, oui, mais en réalité, il est plus probable que c'est ce qu'il a dit au verset 35 et 36, ce dernier discours au peuple, et c'est pour cela que c'est ici, et il invite les gens à venir à lui, il en appelle à leur âme. Au verset 36, il se cacha d'eux. Plus de paroles publiques après cela, sauf ce qui a été dit à la croix du calvaire. Plus de ministère public. Plus d'invitation publique de la part de Christ. C'était son dernier grand discours au verset 36. Et mon dernier point à présent, au verset 37, l'endurcissement tragique des cœurs. Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Il y avait des exceptions. L'apôtre Jean va y arriver, mais la majorité n'a pas cru en lui. Il y a eu des exceptions, Et il y aura des milliers de conversions au jour de la Pentecôte et dans la période qui va suivre la Pentecôte. Des dizaines de milliers probablement. Mais malgré tout, la majorité n'a pas cru en lui. Et ensuite, cette déclaration mystérieuse d'Ésaïe au verset 38, « Afin que la parole qu'Ésaïe le prophète avait dite fût accomplie, ceci c'est Ésaïe 53, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ésaïe, 700 ans auparavant, a mis ses paroles dans la bouche du Messie, la bouche de Christ, et le présente comme disant au Père, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» C'est la manière de dire, « Oh, la majorité ne va pas croire en moi. » Au verset 39, « Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore ?» Et ceci, c'est cité d'Ésaïe chapitre 6, « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » L'un des grands mystères, quand nous voyons ceci dans l'expérience du Pharaon au temps de l'Exode, que Dieu endurcit les cœurs quand les gens endurcissent leur cœur contre lui. Nous lisons ceci dans l'histoire de Pharaon, ceci est très important. Pharaon a endurci son cœur et ensuite nous lisons « Dieu a endurci le cœur de Pharaon » de manière à ce que ce temps où il pouvait se repentir a été amené à une fin. Et jamais il ne s'est tourné vers Dieu. Et Dieu a endurci le cœur de tant des chefs des Juifs, des pharisiens et des scribes. Ils ont endurci leur cœur et ensuite, après un certain temps, il n'y avait plus d'occasion pour eux de se repentir. Il a endurci leur cœur et le cœur de la majorité des gens. Bien sûr, il y avait un but évident pour que Dieu fasse ceci. Ils ont eu leur occasion de se repentir. Ils n'ont pas accepté cette occasion. Et ils ont continué obstinés dans leur méchanceté et dans leur rébellion contre Christ. Ainsi, ils ont été condamnés par l'endurcissement de leur cœur. Mais il y avait une autre raison, parce que c'était important qu'ils crucifient Christ et qu'ils le haïssent jusqu'au bout et qu'ils crient pour qu'il soit exécuté, parce que sa souffrance et sa mort étaient la volonté de Dieu dans sa miséricorde. Il allait aller à la croix et faire ce sacrifice pour les pécheurs, pour expier leurs péchés. Mais de même aujourd'hui, si vous endurcissez votre cœur, si vous rejetez les appels de Dieu dans sa miséricorde, si vous refusez son amour, et si vous choisissez ce monde plutôt que le Seigneur, et si vous ne voulez pas le servir, si vous résistez à toute influence de l'Évangile, à tout appel de l'Évangile, peut-être que le moment viendra où votre cœur sera endurci et votre temps d'occasion pour se repentir sera mis à une fin. Et il n'y aura plus d'œuvre dans votre cœur pour vous amener à la croix du calvaire. Ce sont des choses importantes et solennelles. Et il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Et au verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, il y a là quelques-uns qui se repentent. Et nous allons conclure avec cela au verset 42. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui. Pas la majorité. Une minorité de gens. Mais beaucoup d'entre eux. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient point ouvertement, de peur d'être chassés de la synagogue. Parce que les pharisiens avaient décidé dans le conseil du Sanhédrin et ils avaient accepté cette décision que tous ceux qui confessaient Christ allaient être excommuniés. Il y avait des convertis, Nicodème était l'un d'entre eux qui est venu à Jésus de nuit. Joseph d'Arimathée était un autre également. Et il y en avait d'autres. Nous lisons cela dans Actes chapitre 6. Pas quelques-uns, mais beaucoup des sacrificateurs ont cru en lui. Et cependant, ils étaient comme des enfants dans leur foi. Et ils avaient peur. Et ils ne voulaient pas être excommuniés. Ainsi, ils étaient des croyants en secret. Et c'est que plus tard, qu'ils ont été honteux et qu'ils se sont tenus fermement pour le Seigneur, ouvertement, et qu'ils ont confessé ouvertement Christ, qu'ils se sont donnés à lui entièrement. C'est une autre leçon pastorale, chers amis. Parfois, nous venons à Christ et nous le trouvons réellement. Nous dépendons de lui, nous l'aimons. Et cependant, pour un certain temps, c'est comme si nous sommes des demi-chrétiens. Nous ne parlons pas de Christ au travail. Nous cachons notre lumière sous le boisseau, sous le lit. Nous ne voulons pas être des chrétiens ouvertement. Nous aimons Christ, nous l'adorons, nous dépendons de lui. Nous réalisons que nous sommes perdus éternellement sans lui. Nous le voulons, nous venons à lui, nous lisons sa parole, mais nous sommes chrétiens en secret. Chers amis, c'était le cas ici de certaines personnes, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes, plus que la gloire de Dieu. Pour leur position sociale, quel défi pour nous! Ne soyez pas dans cette position et dès que possible, sortez de cette position et tenez-vous fermement pour lui de tout votre cœur. Et c'est là ce dernier grand passage. Chers amis, nous avons vu le jugement de ce monde et ce que cela signifie. La question méprisante et l'appel de Christ tant de fois, mais pour la majorité des gens, ils n'ont pas compris. Nous avons vu le dernier message de Christ. Et l'endurcissement si tragique des cœurs si obstinés. Mais ces demi-chrétiens vont émerger et plus tard, ouvertement, vont confesser Christ. C'est la dernière partie de Jean 12, ces dernières paroles du ministère public de Christ.